Mais qu'est-ce qui se passe à France Inter, là, on est vendredi 15h, il n'y a pas Mermet? Alors déjà qu'on s'est fait sucrer 10 minutes sur 4 jours, 40 minutes, plus une heure, 100 minutes de Mermet en moins dans la semaine. Et puis moi, à 15h, j'ai pas envie de rêver, hein, j'ai envie de m'informer. Alors ça veut pas continuer comme ça. Mermet, tu reviens, et vite. Allez, Mermet, reviens. Mermet, reviens, Mermet, reviens, Mermet, reviens. Allez, courage à tous. Et puis bon week-end, hein, soyons forts. 100 minutes de Mermet en moins, non mais ils sont dingues.
Bonjour à toute l'équipe, je viens de vivre le premier vendredi sans votre émission. Et grâce à ceux qui régissent vos programmes, je sais maintenant ce que ça veut dire un vendredi maigre. Bon courage, cramponnez-vous. Merci, Joël de Saint-Jean. Au revoir.
Bon, c'est vrai que c'est intéressant, cet après-midi, vendredi, là, les contes des mille et une nuits, effectivement, c'est très intéressant, c'est ravissant, ça fait rêver, c'est impeccable. Mais si je vais écouter ça, je vais sur France Culture. Moi, si j'écoute France Inter, si j'écoute là-bas, si j'y suis, c'est pour une émission qui gnaque, hein, qui tape dedans et qui gueule. Sinon, c'est pas la peine. Donc, faut nous laisser le vendredi, sinon je vais sur France Culture. Ciao.
Après, les AMG, salut. Vous qui vous sentez persécuté, on démantèle là-bas, on lui enlève 10 minutes, on lui enlève le vendredi. Si vous regardiez un peu plus ce qui se passait les années précédentes sur France Inter, il y a souvent quelqu'un qui laisse une journée pour une émission qui est hebdo et pas quotidienne. L'an dernier, je crois que c'était Pascal Clark. Et puis, le temps de Pochon, ben, si vous regardez un peu aussi, et il est depuis plusieurs années à la fin d'une émission différente. Voilà, mais là ça tombe autour de Mermet et de là-bas, donc halte à vos sentiments de persécution, c'est juste le chacun son tour. Allez, salut les AMG.
Bonjour, voilà ce que j'écoute maintenant au lieu d'écouter France Inter. Sauf à l'heure de là-bas si j'y suis. Voilà, c'était Marie-Joël de la Drôme. Au revoir.
Salut à toi qui écoute les messages du répondeur. Je t'embrasse tendrement et simplement au sens étymologique du terme. Je te prends dans mes bras, je te serre contre moi pour te reconnaître en tant qu'humain.
Et ben voilà, quelques messages dans... La boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, que nous avons découvert ce matin même, chers AMG. On continue, on est toujours là. Et on continue aujourd'hui avec une balade en Israël, à côté de Tel Aviv, à Jaffa. Jaffa, un lieu, un grand lieu de l'histoire planétaire, on pourrait dire, au moins méditerranéen. Et là, on va rencontrer un drôle de bonhomme qui s'appelle Rifat, Jimmy, c'est son surnom, turc. Rifat, turc. Ça vous dit sans doute pas grand-chose. Eh ben, pour les habitants de Java, c'est un héros, c'est un très grand personnage. Et pourquoi Rifat, turc, est un grand personnage? Parce qu'il fut un champion de foot en Israël. Rien d'extraordinaire non plus, sauf qu'il est arabe et qu'il fut le premier arabe à entrer, à être sélectionné dans l'équipe israélienne en 1976. Foot et politique aujourd'hui. C'est la génération de Platini à peu près, hein, les années 70, etc. Et Platini disait, je ne fais pas de politique, je fais du football. Oui, mais il y a bien souvent la politique dans le football. Très souvent la politique rattrape le foot, non seulement à travers les enjeux financiers énormes, mais c'est très souvent que symboliquement, au moins en termes d'image, la politique rattrape le foot. Et évidemment, spécialement en Israël, cet arabe palestinien, israélien, il va nous donner la définition de sa propre identité, a vécu à une expérience, on peut dire politique, du foot. C'est notre balade du jour avec Gaylor Van Wimersch et Lucie Akoun. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
La Suisse vient de supprimer supprimer le secret bancaire pour les citoyens américains et les sociétés américaines. C'était ça, ou il n'y aurait plus eu de banque suisse sur le territoire américain. Bravo les Américains. Nul doute que les Européens vont se précipiter et faire exactement la même chose en employant exactement les mêmes menaces. Comment ça, je suis naïf? Pourquoi je suis naïf?
Bon, mauvaise nouvelle, Hervé Kempf se casse du monde. C'est embêtant quand même. Je voudrais dire aux élites qui tiennent le gouvernement, le pouvoir, les médias, etc., etc., que ça va finir par se voir. Ça va finir par se voir. On n'est peut-être pas très malin, mais on va peut-être finir par s'apercevoir que vous êtes en train de nous enfumer pour tout, pour tout, pour tout. Et que ça va devenir difficile à vivre et à supporter.
Ripat, il est plus pêcheur ou plus footballeur?
Cadeau glan.
Non, quand même. Footballeur. Regarde ses muscles.
Lui, il est comme les poissons. Il s'approche du port, il commence à revivre. Si tu enlèves ça, il meurt.
כן, אנחנו חוזרים עכשיו לפועל תל אביב, שנת 81, היום הוא כבר מנהל קבוצה, ואיזה שחקן גדול היה, יפעת טוב, הנה.
הערבי הראשון הכי מפורסם בכדורגל של ישראל.
לרב לפי קוני די פוטבול ישראל.
אבל זה מראה כמה שאנחנו עם הערבים נורמל.
Ça montre combien on a des relations tout à fait normales avec les Arabes. On est tous des citoyens israéliens, il n'y a pas de différence.
Salut, c'est Daniel Mermès, la basse, j'y suis avec Guillermo Vimersch, Lucia Kuhn et Michel Barzavski, Rifat Turk.
Nous voilà à Jaffa, Yafo pour les Israéliens en hébreu et Yafa pour les Arabes. On est au sud de Tel Aviv et Jaffa c'est une ville de 400 000 habitants qui s'est développée après l'indépendance d'Israël mais qui a été depuis toujours un grand port arabe notamment, phénicien et romain. Et on est à Jaffa aujourd'hui, il fait chaud, moite, c'est l'été et on a rendez-vous avec un homme qui est un ancien footballeur arabe israélien, Rifat Turk, dit Jimmy Turk.
Vous voyez tous ces bâtiments là-bas, là-bas, là où il y a les hôtels.
Ça, c'est du début de Tel Aviv.
Ouais. Tout ça, c'est Manchie, le quartier de Manchie, c'était à nous. Tu vois la cheminée de Reading, la centrale électrique. Juste à côté, on voit un bâtiment qui est
l'hôtel Hilton.
Là où se trouve le Hilton. Tout ça, c'est construit sur un cimetière. À nous, un cimetière musulman.
Parce que là-bas, donc là-bas c'était la ville, là on regarde vers le nord, là-bas c'était des parties arabes de Jaffa, une extension de Jaffa.
Oui, oui, tout à fait, ça faisait partie de Jaffa.
Qu'est-ce que ça représentait Jaffa pour les Arabes?
Jaffa, on l'appelle la fiancée de la mer. C'était la grande ville de Palestine. C'était le centre de la région. Les agrumes, ils sortaient du port de Jaffa.
Oui, il y a les oranges de Jaffa qui sont très connues.
C'est le plus ancien port, il avait 5000 ans. Et les marchandises qui venaient du monde et qui partaient vers le monde arrivaient ici pour aller vers Jérusalem. C'était central, il y avait pas le port de Haïfa, c'était le port depuis des milliers d'années.
כן, אנחנו חוזרים עכשיו להפועל תל אביב, שנת 81, היום הוא כבר מנהל קבוצה, ואיזה שחקן גדול היה, אטו, הנה.
C'était le 25 décembre 1914. Le 25 décembre 1914. C'était le début de la guerre. Et ceux qui la faisaient ne savaient pas que c'était le début. Ils pensaient que ça allait s'arrêter. Ils ne savaient pas où ils en étaient, la guerre. Et ce 25 décembre 1914, eh bien, des soldats allemands et des soldats anglais sont sortis de leurs tranchées. Et ils se sont avancés les uns vers les autres. Un pari complètement fou, puisque c'était entre les balles ennemies et celles du peloton d'exécution. Et évidemment, toute fraternisation était punie de mort. Et bien, les soldats se sont rencontrés sur un no man's land, entre les trous d'obus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont échangé des cadeaux, 25 décembre, ils ont échangé des cadeaux, ils se sont offerts des cigarettes, ils ont mangé ensemble, ils ont pris des photos et c'est le plus important, ils ont joué au foot. Ils ont joué au foot. Cette trêve ne s'est jamais reproduite durant la guerre de 14-18. Et voilà, c'était un moment de pacification extraordinaire, ce petit moment a été complètement oublié. La guerre a eu lieu et on se souvient pas de ce moment miraculeux. Par contre, quand on regarde un match de foot, il y a quand même très souvent l'idée que ça fait du bien quand même. Il y a des rapprochements, il y a une mixité dans les équipes. Il y a bien sûr un affrontement, il y a des tensions, mais on ne sait jamais si on évacue quelque chose, une imbécilité chauvine, ou bien si au contraire on la fabrique, si on la construit. Est-ce qu'on est en train de construire de la haine, de l'agressivité aussi, ou bien est-ce qu'on est en train de l'évacuer? On ne sait jamais exactement ce qui se passe. On ne sait jamais non plus quand la politique rentre dans le foot. Bien sûr que quand vous regardez un match de foot, vous ne faites pas de politique. Oui, seulement la politique est là très très souvent. Elle était là, évidemment, et comment ? Dans ses tranchées ce 25 décembre 1914. Et toute proportion gardée, eh bien, elle est là où nous allons aujourd'hui, à Jaffa, à travers la mémoire et les souvenirs et l'expérience de ce personnage tout à fait extraordinaire qu'est Rifat Turk. Un champion, un grand champion de foot, célébrissime, vous allez le voir, qui nous attend avec Gaylor et Lucie, dans ce cas, et Michel Warszawski à la traduction, dans ce quartier de Jaffa, on l'a dit, il est arabe israélien, et quelle langue parle-t-il ? Il parle hébreu, parce qu'il fait partie de ces Arabes israéliens qui se disent aussi palestiniens, bien qu'ils ne soient ni à Gaza, ni en Cisjordanie, ni en exil, ni dans la diaspora. Ils sont là où ils ont toujours été, mais ils sont maintenant parmi une majorité d'Israéliens. Alors tantôt on s'entend bien, tantôt on vit en harmonie, en amis, voire même parfois il existe des couples mixtes, et ça existe bel et bien, et puis parfois c'est les tensions, c'est la haine, c'est l'apartheid, c'est la discrimination. Et cet homme est toujours là, entre l'amour de la pêche et l'amour du foot. Rifat Turk. C'est jusqu'à 16h, c'est l'impasse qui suit.
On arrive à la plage de Jaffa et on suit Rifat Turk qui a une carrure assez impressionnante. Il y a un petit peu de Mohamed Ali en lui, il a les cheveux courts, les cheveux rasés, une barbe blanche et des épaules très carrées. Et on est sur la plage de ses débuts en football. C'est là qu'il a commencé, Rifat Turk. Est-ce qu'on peut aller voir la mer, Rifat ?
Il faut escalader pour y aller.
Ouais, on va escalader, on va aller sur les rochers, on va aller voir le front de mer.
Et chaque fois que je vois ces bateaux là de pêche, ces vieux bateaux, ça me ramène 50 ans en arrière. Je me souviens, lorsque j'ai commencé à pêcher, mon père était pêcheur. Quand on sortait la nuit pour pêcher, moi je me cachais dans le bateau. Et une fois qu'ils étaient en pleine mer, je sortais de ma cachette. Et mon père disait, qu'est-ce que tu fous là? Mais pourquoi t'es là?
Et
même quand j'ai commencé à jouer au football, j'étais à la fois footballeur et pêcheur. Et j'aimais les deux choses énormément. J'adorais autant la pêche que le football.
Le football et la pêche.
Parfois, le football et la pêche se télescopaient. Et alors je vais décider qu'est-ce qui est plus important, ou ça ou ça. Avec beaucoup de tristesse, j'ai dû cesser la pêche et je me suis complètement investi dans le football. J'ai jamais oublié la mer. Quand la saison de football se terminait, le lendemain, à 5 heures du matin, j'étais là dans le port, même quand j'étais très connu. Je le faisais pas pour de l'argent, j'avais pas besoin d'argent, mais je le faisais pour mon propre plaisir, ça me donnait la pêche.
Pourquoi c'est important la mer ici?
Moi, je pense que plus tu t'éloignes de la mer, plus ton esprit se dessèche. La mer t'ouvre la tête et tu es bien. T'es bien et tu deviens quelqu'un de bien, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus joyeux. Moi, je vous l'ai dit, hein. La mer m'a donné le meilleur. Il m'a donné d'abord la meilleure bouffe, même si c'était la nourriture pour les pauvres, et qu'on mangeait matin, midi et soir du poisson. J'ai tout reçu de la mer. Depuis l'âge, depuis zéro, regarde mes muscles, regarde mon corps, ma poitrine.
Ce qu'il est costaud, Rifat.
C'est de la mer. C'est pas mes entraîneurs. C'est pas eux qui m'ont construit mon corps. C'est la mer qui m'a construit, qui m'a fait. Et c'est pour ça que j'aime la mer.
Les enfants de la mer.
Exactement, exactement, c'est ce qu'on était. C'était notre espace.
Vous voulez
qu'on marche un peu?
On va marcher.
J'avais
un hobby. On allait pêcher des requins.
Des requins?
Moi et une bande de 3 ou 4 copains. Je vais vous montrer. Vous allez voir les requins que moi j'ai pêchés.
On se dirige vers un café, le restaurant de poissons Fisherman's. Bonjour. Voilà. Voilà, il y a tous les employés du restaurant, il leur fait la collade. C'est ses amis. Et il va nous montrer les photos de pêche là au mur.
Regardez l'acteur là. Regardez l'acteur. Il est là partout.
Ça, c'est les photos de Rifat. Oui. Avec les requins, c'est impressionnant, c'est des gros requins, ils font 2-3 mètres.
C'était il y a 40 ans quand même. Ça c'est notre bateau, ça c'est un ton de 250 kilos. On était comme une famille nous tous. Tous des pêcheurs, on sortait ensemble. Juifs, arabes, chrétiens, musulmans, juifs, on était une grande famille. Il est comme les poissons, il s'approche du port, il commence à revivre. Si tu lui enlèves ça, il meurt.
Rifat, il est plus pêcheur ou plus footballeur?
Cadeau glan.
Non, quand même, footballeur. Regarde ses muscles. Regarde ses muscles.
خبرنا خبر عن يافا
وشراعي في ميناء يافا
يا أيام الصيد بيافا
نادانا البحر ويوم السحر فهيا له المزداد
نلمح في الخاطر أضيافا قمنا بالشوق إلى يافا
فجرا أطلعنا زمدا وشراعا وغنمنا منه كثيرا قل من صبح لمساء نلهو بغيوب الماء لكن في الليل
في الليل
جاءتنا الريح
في الليل
يا عاصفة هوجاء وصلت ماء بسماء
عاصفة البحر الليل يقطعان ذئاب
أنزلنا الصاري أمسكنا المجزار نقصو ونداري والموت بنا طاف قاومنا الموج الغاضب غوضنا البحر الصافي وتشد وتعنف أيدينا ويشد يشد القارب
C'est impressionnant, là, les grands filets de pêche entassés, orange et vert. Et là, les bateaux qui sont en cale sèche. Ah, on va passer dans les entrepôts.
C'est là que les pêcheurs entreposent leurs filets.
Ça, c'est un de ses amis pêcheurs à qui il dit bonjour, qui est en train de... Bonjour. Qui est en train de réparer ses filets de pêche, de tisser son filet.
Mais aujourd'hui, ceux qui sont responsables, la municipalité, ils font tout pour que les pêcheurs et les bâtiments de pêche disparaissent et que ça devienne
un port de tourisme.
Un port de tourisme,
de plaisance. Ça, on est sur le port, c'est les anciens entrepôts, en fait, qui sont devenus maintenant des restaurants, un centre commercial et des galeries. C'est devenu un endroit branché.
Je suis pas contre ça, c'est important, la culture, etc. Mais avant de s'occuper de la culture des autres, il faut s'occuper pour les gens qui habitent là. La population de Jaffa, d'un point de vue socio-économique, les Arabes de Jaffa, c'est parmi les plus faibles du pays, si ce n'est pas la plus faible.
Le plus faible niveau de développement économique du pays.
Un jour, on m'avait dit ça, et ça me reste dans la terre très fort dans ma tête. Le Jaffa, c'est une population pauvre sur des terres très chères. Vous voyez combien de touristes il y a ici,
Venez madame, venez madame. Il y a une dame qui s'approche et qui a demandé à Rifat s'il était pêcheur.
Mon père était pêcheur ici aussi.
Vous êtes d'ici madame?
Je suis d'Israël.
Mais on habite à Vienne actuellement avec mon mari.
Vous connaissez Rifat?
Rifat Turk, dis-toi, t'es Rifat Turk.
Ah voilà, ils viennent de reconnaître Rifat Turk. Et le monsieur, le mari de la dame, là, veut prendre une photo avec lui. Voilà.
T'étais au top de ta carrière, et maintenant, qu'est-ce que tu fais?
Ah, il demande des nouvelles.
J'ai mes enfants à Jaffa. Oui, j'étais à Poel Tel Aviv. Je me souviens très bien de ton nom. Je me souviens de toi avant que tu sois dans la sélection nationale.
Moi, j'étais
gamin à cette époque-là.
Spiegel
et tous ces célébrités, les joueurs. Et après, j'ai entendu parler de Rifat.
Et vous savez que c'était le premier arabe à jouer en équipe d'Israël.
C'était l'arabe le plus connu du football israélien.
Et
ça montre combien on a des relations tout à fait normales avec les Arabes. On est tous des citoyens israéliens, il n'y a pas de différence.
Merci.
Voilà, ça se passe
gentiment, ça se passe gentiment. Rifat est un héros populaire dans son quartier de Jaffa, à côté de Tel Aviv. Il est, on l'a dit et répété, le premier arabe à avoir été sélectionné dans l'équipe nationale israélienne. Néanmoins, quand il évoque sa vie, quand il évoque cette époque-là, il disait quand j'entrais sur le terrain, il commençait à pleuvoir. Et pourquoi il commençait à pleuvoir? Eh bien, c'était les gens qui me crachaient dessus, dit-il. Il aurait pu se contenter de sa popularité, de son talent formidable de joueur de foot. Ben non, ça lui a pas suffi, parce que cette discrimination lui est restée en travers de la gorge. Et il en a fait un combat, on va voir, un combat politique, une revendication permanente, une lutte contre cette discrimination et ce racisme dont il a été l'objet, qui n'est pas la totalité, qui n'est pas l'attitude de tout, évidemment. On s'en doute bien de tous les Israéliens vis-à-vis des Arabes israéliens, bien sûr, mais qui existe bel et bien et qu'il n'a pas cessé de combattre, que n'a pas cessé de combattre cet homme légendaire.
Au café ?
Ok, no problem.
On est à la terrasse d'un café avec Rifat. Vous avez fait du football votre profession, parce que vous êtes un joueur de football professionnel, quoi. Maintenant vous avez 60 ans, vous avez pris votre retraite depuis un petit moment, mais vous avez été un joueur de football connu ici en Israël. Comment ça a commencé pour vous ?
J'ai commencé à jouer exactement à cet endroit.
Et
un jour, quelqu'un
est venu.
Il voit comment je joue et je fais rentrer des buts.
C'est-à-dire qu'il vous a recruté ici sur la plage. Vous étiez en train de jouer et il vous a recruté.
C'est quelqu'un qui était un supporter de Hapoël Tel Aviv. Moi, je vois que tu es un bon joueur. Je veux qu'on te prenne à Hapoël Tel Aviv.
Vous avez quel âge ?
14 ans et demi. Et on est tous des gosses du quartier, une partie des semi-délinquants. J'ai dit, fiche le camp. J'étais certain que ce mec-là, il était complètement barge. Moi, et en plus un arabe, ils vont prendre qui c'est qui va me recruter à Hapoël Tel Aviv. Et il se fout de ma gueule. Et finalement, j'ai dit d'accord et il m'a emmené m'entraîner à Hapoël Tel Aviv. L'entraîneur ne sait même pas comment je m'appelle. Il me prend par l'épaule et il me dit, écoute bien gamin, je dois te dire quelque chose de très important. Et prends-le en considération. On est dans un pays raciste. Ils t'injureront. Ils te cracheront dessus. Ils te traiteront de tous les noms, terroristes, OLP et tout. Tous ces trucs-là, tu l'entendras. Mais tu dois être intelligent. Le premier match que j'ai joué, tout le public hurle « mort aux Arabes, mort aux Arabes ».
Ah oui, le public dans les stades criait mort aux Arabes.
Mon premier match.
Parce que vous étiez sur la pelouse.
Et dans le journal, ils avaient écrit un joueur arabe a été recruté par Hapoël Tel Aviv. Et on l'appelle Hassan Arafat. D'où ils ont inventé Hassan, d'où ils ont inventé Arafat, je ne sais pas.
C'était plus Rifat Turk, c'était Hassan Arafat.
En 72, quand tu dis Arafat, ça commence à gratter. Tous les Israéliens se grattent les fesses.
Il n'était pas très populaire, effectivement. Terrain et vous avez été après sélectionné en équipe nationale israélienne. Vous étiez le premier arabe israélien à être sélectionné dans l'équipe nationale.
כן, בוודאי שהיא סקפית.
עכשיו תשמע, אני ידעתי גם כשאני משחק במבחרת ישראל, אני ערבי, פלסטיני.
וסבי, מוא אנטן כערב, ישראליין, פלסטיניין, קישו דן לקיפ דישראל.
אני ידעתי גם כשאני שיחקתי.
J'entendais le public, j'entendais l'opinion publique aussi, je la ressentais.
Et un mixar arabe,
je parle du secteur arabe, c'est-à-dire plus d'un million de personnes en Israël.
Pour qui c'était
très important que moi, en tant qu'arabe, je les représente quelque part dans cette équipe. Et ensuite de représenter le secteur arabe dans la représentation nationale.
Et alors aujourd'hui, vous êtes tiraillé, vous avez une tension comme ça identitaire. Alors vous êtes quoi? Vous êtes arabe, israélien, palestinien?
Arabe, palestinien, né en Israël.
Né en Israël.
Arabe, palestinien, né en Israël.
يلا سلام عليكم سلامات ايه عربيين انا مدبر عربي
avec les arabes je parle
arabe ايه انا مدبر عربي
je parle hébreu
اه تليفون كي سون
الو كان
le coup de fil en hébreu alors quelle est votre langue
non c'est l'arabie
ma langue c'est l'arabe
arabie طبعا العبري جاما انا مدبر
من الهبرو شيخوليات il est parfait mon hébreu Parce qu'on vit dans un pays dont c'est la langue. Et beaucoup de mots hébreux rentrent dans mon langage, dans ma langue arabe. Tu commences en arabe et tu passes à l'hébreu.
On appelle ça le créole israélien.
C'est
vrai que les juifs aussi utilisent plein de mots arabes.
Hein? Non,
c'est pas ça notre problème. Si seulement c'était ça notre problème, ce serait bien.
Le
problème est un peu plus grave que ça.
Et pourquoi votre famille est restée ici? Parce qu'en 48, 47, guerre d'indépendance d'Israël, il y a la Nakba, ce qu'on appelle la Nakba, la catastrophe pour les Palestiniens. Pourquoi votre famille n'a pas quitté Jaffa?
Ma grand-mère, et mon arrière-grand-mère, c'était des femmes solides. Et surtout mon arrière-grand-mère en particulier. À ce moment-là, elle avait 90 ans, mais c'était une femme forte. Elle leur a dit, en aucun cas, tout le monde veut s'enfuir, nous on bouge pas.
Je reste ici, je reste à Jaffa.
Et
avant, c'était l'endroit le plus beau du monde. Et une semaine après, tout est détruit. Et là, tu comprends pourquoi est-ce que les gens sont partis. Ils voyaient un bateau, ils étaient prêts à payer de l'argent, allez, prends-moi d'ici parce que c'est la catastrophe.
Parce que l'armée israélienne a bombardé, c'est ça, Jaffa.
Le groupe Stern, le groupe l'Irgun, la Haganah, c'était Shamir, Begin et leur groupe, c'était le Palmar. Ils ont tout cassé, ils ont tout détruit.
Avant 1948, il y avait presque 200 000 habitants à Jaffa. Après la guerre, et peut-être 4 000 sont restés.
4 000 seulement après la guerre, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement toute la population, 196 000 personnes qui sont parties.
Qui sont parties en Syrie, au Liban, à Gaza, en Égypte.
Et vous, vous êtes un arabe israélien, ce qu'on appelle un arabe israélien, c'est-à-dire un palestinien de 48, qui vit en Israël. Vous avez la citoyenneté israélienne. Est-ce que vous, en Cisjordanie, vous y allez? Est-ce que vous avez de la famille là-bas? Est-ce que vous voyagez en Cisjordanie ou à Gaza?
J'ai pas grand-chose à faire là-bas. Mais s'il y a quelque chose de spécial où je veux venir, j'y vais. Mais c'est pas un endroit où je vais en général.
Vous n'y allez pas?
Non, c'est pas ma maison. C'est pas chez moi. Ça, c'est ma maison. Ici, Jaffa. Moi, je suis né ici. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont nés ici qui sont enfuis là-bas. Mais nous, on est restés là. Non, en fait, c'est pas important. Mais moi, je quitterai jamais là. Ça, c'est ma place. Ici,
c'est chez vous.
C'est chez moi. Ça, c'est ma maison. J'ai pas d'autre maison.
Toujours, les Arabes israéliens sont regardés, les Israéliens eux-mêmes, comme l'ennemi de l'intérieur, la cinquième colonne au sein du pays qui voudrait déstabiliser l'État juif, et de la part des Palestiniens, comme des traîtres qui sont restés dans l'État israélien.
Mon identité n'est pas du tout compliquée. Les Palestiniens là-bas qui me regardent de haut, moi je peux leur dire, moi je suis resté alors que vous vous êtes enfui. Nous on était leur encre. Heureusement que nous on est resté là. Si on n'était pas resté, qui aurait parlé de Jaffa? Quant aux Israéliens, nous on vit dans ce qu'on a, on ne peut pas l'appeler autrement, un État raciste.
Pourquoi?
Parce que je suis suédois, non? Pourquoi?
Ils n'aiment
pas les Suédois comme moi.
Voilà l'ancien champion de foot, Rifat Turk, qui n'a pas baissé les bras et qui se souvient de ces matchs avec le Bétard de Jérusalem. Là, on parle du Hapoël de Tel Aviv, mais il y a aussi le Bétard de Jérusalem qui a une très très mauvaise réputation, à peu près celle du PSG d'avant, me dit Franck Adhérer. Il faut pas comparer avec le PSG d'aujourd'hui, il m'a bien dit, mais le PSG d'avant, parce que très longtemps, le Bétard de Jérusalem s'est enorgueilli d'être la seule équipe israélienne de n'avoir jamais aligné un joueur arabe ou musulman, alors qu'un cinquième de la population d'Israël est d'origine palestinienne. Et durant les matchs du Bétard, décrits comme « mort aux Arabes » et « Mahomet est mort », sont monnaie courante. Et en janvier dernier, le Bétard a finalement engagé deux joueurs musulmans en provenance de Tchétchénie, et un nombre important de supporters ont manifesté leur colère. Les deux joueurs ont été salués par un torrent d'insultes et une banderole affichant « Bétard pur pour toujours », on leur a craché dessus, et nombre de supporters ont boycotté les matchs. Enfin, voilà, c'est le moment vraiment où le foot n'adoucit pas du tout les mœurs. Et de tout cela, Rifat Turk se souvient.
Et j'allais vous dire, Rifat, les années 70-80 dans lesquelles vous avez fait votre carrière de football ici, dans les clubs israéliens, c'était des années très tendues politiquement, notamment avec l'OLP, avec les volontés d'indépendance et de libération nationale des Palestiniens. Est-ce que dans ces années-là, il y a des matchs mémorables dont vous vous souvenez, où justement l'atmosphère politique de l'époque, avec les attentats, transparaissait sur les matchs, et c'est devenu un enjeu politique?
Entre mes copains, Bétard Jérusalem.
Entre le Bétard Jérusalem. Alors racontez-nous.
On jouait ici, au terrain Bloomfield, à Jaffa.
Bétard Jérusalem, à Pam Lonitzra Otan.
Et c'est à cette époque qu'il y a un match contre Hapoël.
En 73-74.
Tu te souviens lorsque
quand
le réseau terroriste juif avait fait des attentats contre le maire de Naplouse et de Ramallah?
Alors ça, c'était justement dans les années 80. Il y avait un groupe terroriste juif
qui avait fait différents attentats, ça s'appelait le Gouche Emonim, qui avait fait des attentats dans les territoires palestiniens, et notamment qui avait visé les maires de Ramallah, les maires de Naplouse, en faisant des attentats à la bombe.
Bassam Chaka.
Alors Bassam Chaka, c'était le maire de Naplouse.
Ami, dans ce match-là, Betar Yerushalayim, mouvinim alenu 1-0.
Alors ce match-là, précisément, Betar Jérusalem à l'avantage 1-0 et pourtant ils ne nous avaient jamais
battus.
Et on voit que c'était déjà 80 minutes de match, 85, et on est toujours mené 1-0.
Bassam Chaka,
et pendant tout le match il me crie Bassam Chaka, Bassam Chaka.
Donc du nom du maire de Naplouse qui avait perdu ses jambes dans l'attentat terroriste.
Oui.
Bassam
Chaka a perdu ses jambes. Et maintenant, c'est le tour de tes jambes à toi d'être comme Bassam Chaka.
C'est le public qui vous disait ça.
Je suis bouffé de l'intérieur. Et on voit le temps passe et il reste plus 3 minutes. Il reste plus qu'une minute.
עושים עלינו איזה פאול מאיזה 30 מטר.
פאול. רוסמן קופרון,
עכשיו בחבר שלי אומר לי, תן לי, אני רוצה לבעוט. אמרתי לו, עזוב, אני בועט ואני עושה את השער. עכשיו,
זה השער
שלהם, השוער שלהם, יוסי מזרחי.
אבל יוסי מזרחי.
מעביד חומה את כולם, 10 שחקנים עומדים בחומה. ואני פה,
אנחנו מסתכלים לשם. Tous les joueurs du terrain dans le mur.
10 שחקנים.
Une muraille.
Et tout le monde sait qu'ils ont gagné, ça y est, c'est clair qu'ils ont gagné la première fois de leur vie qu'ils ont battu Hapoël.
אני שם את הכדור מפה, בום, שם לו פצצה בחיבורים.
Et finalement, je bute et dans l'angle supérieur gauche, ça rentre, juste au coin.
Il montre avec ses mains, juste dans le coin du but.
Et
je fonce vers la tribune du Betar Yerushalayim et je dis Bassam Chaka, Bassam Chaka, il vous a baisé, Bassam Chaka vous a baisé.
Comme ça, avec les poings levés, il montre.
Il jette
des oranges, des pommes. Et moi, je reçois bien les pommes sur la poitrine, mais je suis fier. Mais j'étais fou, complètement fou à ce moment-là. Ça, c'est le match que j'oublierai jamais. Je l'oublierai jamais, ce match.
לנדאו כיוון שהוא הולך מצוין וטורק ממתיר לכדור וטורק בועט איזה שער שער בכורה עונה לריפת טורק
en route.
Moi j'étais adjoint au maire pendant quelques temps.
Ici à Tel Aviv, vous aviez un poste, vous aviez été élu au conseil municipal.
Mais j'ai rendu mon tablier après 10 ans parce que je voyais que je pouvais peser sans rien. J'étais le seul arabe dans la municipalité
de Tel Aviv.
Il y a 31 membres du conseil municipal. J'étais le seul contre 30. Je vais vous amener maintenant voir les noms des rues. Il
n'y
a pas une seule rue qui porte le nom d'un arabe. Moi, je
ne
suis pas con. J'ai fait des propositions à la commission.
Je
n'ai pas proposé qu'elle s'appelle Ahmad Yassin. Yasser Arafat.
Je veux la confrontation.
Mais moi, je ne suis pas idiot.
Qu'est-ce que vous avez proposé?
Koultoum.
Ah, j'ai proposé la rue Koultoum.
Du nom de la chanteuse égyptienne.
Il y a
en Israël 2 millions de juifs qui écoutent Koultoum tous les jours.
Najim Mahfouz.
J'ai proposé Najim
Mahfouz. Alors, Najim Mahfouz, c'est un écrivain égyptien qui a eu le prix Nobel.
Des intellectuels,
des gens de culture, de la grande culture. Dans la commission, moi et 8 autres. On a un vote qui est d'accord pour qu'on appelle la rue Najim Mahfouz. C'est moi qui lève le doigt et je suis tout seul. Qui est contre? 8.
בסוף, כאילו, אחרי כמה פעמים הפכתי את השולחן, אמרתי להם, בני זונות, אתם גזענים, אתם מסחירים, עזבתי את הבעיה.
Vous êtes tuant, vous êtes des racistes.
Et finalement, il n'y a pas eu de rue appelée Oum Kalsoum ou Naguib Mahfouz.
Mais tu rigoles. Ça, c'est un centre culturel relativement nouveau qui s'appelle Judéo-Arabe. 80%
juifs
et 20%
arabes. 20% juifs, 20%
arabes. Le directeur, c'est aussi un collabo, il fait ce qu'il veut.
Un super collabo.
C'est un arabe.
C'est ce qu'on appelle un bon arabe.
Un bon arabe.
Moi,
je suis un mauvais arabe.
Alors, il y a les bons et les mauvais arabes, c'est ça.
Exactement. Celui qui ouvre sa gueule, c'est un mauvais arabe.
ولد صغير بعالم كبير تايه مش عارف ايش بيصير يا دوب فتحت عينك سمعت يا دوب فتحت قلبك توشعت يا دوب انضميت إلنا شفنا مفرقين يهود مسيحية مسلمين ولا واحد بده يتفهم غيره كل فقر انه احسن من غيره بس هو يستاهل الجنة وحاليا كلنا معيشين بعضنا بجهنم اما انت غير عنا قلبك نضيف من جوا ترضاش للي برا يوصلولك اياه طالب الحياة كلها مساواة اذا حد قالك اكره قول له لا انا ما بكره حد اطفالي اليوم بدنا نغير الغد
Naguib Mahfouz et écoutez Oum Kalsoum. Merci, c'était Rifat Jimmy Tourk, un reportage de Gellor Van Vimer chez Lucia Kuhn. Merci à Michel Warchavski pour la traduction. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis, et vous pouvez réécouter cette émission sur le site là-bas.org, là-bas.org, ainsi que sur la page Facebook de l'émission et partout. Vous pouvez laisser des commentaires. À la technique aujourd'hui, Elodie Royer et Anthony Thomasson. C'est Jérôme Chélius et Franck Adhérère qui ont réalisé cette émission préparée avec Pierre-Yves Bulteau. Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Il est 15h52 sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Tout de suite, on retrouve Hervé Pochon avec son temps de pochon.
فيها تقابل ناس قلوبها مش نظيفة حاول تحسسك انها اعلى منك واذا هي بتفكر هيك يعني هي اوطى منك انت مش ارهاب انت مش حيوان انت انسان اللي مخرب اسمك اشي اسمه سياسة تاخد المنح منك لانها طمانة في ناس معك ماشي لانها حزانة على العرب المسكينة